Nous sommes le jeudi 12 décembre. Il est 21h et pas beaucoup de plus, hein, vraiment, sur Radio Canus 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Et normalement, à ce moment-là, il y a une musique qui lance. Mais l'émission est réalisée par un clampin.
Est-ce que tu peux raconter la musique
avant? Par deux clampins. En fait, c'est une musique faite pour le meilleur jeu du monde. Le jeu préféré du réalisateur, Fallout 3. Fallout. Le nerf de la game, l'émission qui fait quoi? J'en sais rien, moi.
Oh là là, mais c'est n'importe quoi ce soir.
Ah là là. Pardon.
Musique de Fallout.
C'est bon, on l'a refait, mais on n'est pas en direct. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. 5 personnes dans ce studio, le studio est surpeuplé, on dirait radioactivité. Pour réaliser l'émission ce soir, lorsqu'il n'essaye pas de doubler la taille de la wishlist de ses viewers, il raconte ses souvenirs d'anciens combattants du web dans un podcast rempli de grabataires comme lui. Bonsoir Romain.
J'ai même pas envie de te souhaiter, de se saluer Xavier.
Comment vas-tu?
Mais ça va très très bien, ça a l'air d'aussi bien que toi.
Est-ce que ça s'est bien passé ce podcast? Est-ce que ta semaine n'a pas été très longue? Notamment ton mercredi n'a pas été très violent.
J'ai passé 7 heures en stream hier. C'était long. C'était une très bonne journée. J'ai passé une très très bonne journée. C'était très cool. Du coup, on continue à parler devant des gens, devant des micros, avec d'autres, toujours des gens sympathiques que je te ferai le plaisir de présenter.
Très bien. Elle a été désignée volontaire pour couvrir la cérémonie des Game Awards en direct cette nuit entre 2h et 5h du matin sur la chaîne Twitch de Romain, sur laquelle vous nous suivez peut-être. Bonsoir Bettina et merci pour ton sacrifice.
Hein?
Waouh.
Ok.
Ça va?
Ouais, je crois.
En tout cas, j'espère que t'es en forme parce qu'à 2h, au taquet. Hein.
Ouais, ok, d'accord. Ouais, très bien.
Bon courage.
Le nerf de la game a commencé comme un duo dynamique, a évolué comme un trio d'or magique et risque de se transformer en quatuor fantastique s'il continue de venir de façon aussi régulière. Bonsoir Julien.
Bonsoir, je suis la raison pour laquelle on te voit à la caméra.
Voilà, et c'est la raison pour laquelle...
Je suis pas sûr qu'on t'ait entendu.
C'est la raison pour laquelle on t'entend pas au micro.
Non, c'est possible, parce qu'en fait, il a pas l'air de fonctionner.
Ah merde.
Essaye.
1, 2, 1, 2.
Non, il marche pas.
Alors c'est celui-là, mais
ça va être la meilleure émission.
Et ben on m'entendra pas, c'est pas grave.
Voilà.
Julien qui notamment est aux manettes avec d'autres gens qu'on ne citera pas juste par pudeur du collectif Presse F5 qui a la gentillesse d'héberger nos podcasts le nerf de la game.
Mais celui-là marche.
Mais quelle technique incroyable.
Ah c'est fou. Heureusement qu'on a eu 24 heures de préparation avant.
Oui, on a eu le temps.
Voilà.
Très bien.
Et donc, en tout cas, merci à toi, Julien, d'être là. Et merci pour l'hébergement de nos podcasts. C'est très cool à toi.
C'est dommage, pour une fois que tu me remercies, j'ai pas écouté ce que t'as dit.
Pour une fois que j'ai écrit un truc gentil sur toi, ça m'apprendra. Ce soir, on reçoit Jenna, et qui est Neige Dorée, qui va nous parler de son jeu Contenir. Bonsoir, Jenna.
Bonsoir, c'est Jenna. Je suis développeuse de jeux. Je fais ça depuis toute petite et j'adore. Je travaille dans l'industrie. Voilà, je suis là.
Et spoil pas tout, on a des questions après.
Ouais, super, voilà.
J'ai un peu speedrunné.
Bon. T'as tout dit. Ah, merci.
C'était sympa. C'était juste l'épisode du nerf de la game. Merci d'être venu.
Une émission pas du tout chaotique.
Je peux donner bien plus de détails. Mais j'ai 28 ans de vie à raconter si vous voulez.
Avant de commencer à détailler ces 28 ans de vie, mais vraiment heure par heure, on veut un live Twitch, tout ce qui s'est passé.
C'est bientôt 29, donc attention.
Oula.
Mais d'abord, on va vous donner des nouvelles des gens qui fabriquent des jeux vidéo sur Lyon et ses alentours. Bettina, je te laisse la main.
Oui, alors je vais vous parler de Species Unknown de Wanadev Studio.
C'est marrant parce qu'on en parlait avant que tu arrives.
Ah ouais,
j'ai la news aussi.
Comme quoi les choses sont bien faites. Donc qui est sorti en Early Access le 23 octobre et le jeu est très très bien reçu par les joueurs et joueuses et le démarrage a dépassé les espérances du studio. Donc Species Unknown, c'est difficile les noms en anglais comme ça.
Mais oui,
on pourrait pas tout faire en français. Voilà,
espèce inconnue, c'est quand même beaucoup plus simple.
Alors que nous, on préfère inviter des gens qui font des jeux vidéo dont le nom est en français. Mais c'est oui, quand même beaucoup plus simple.
Contenir.
Contenir.
Donc Species Unknown est un jeu d'horreur et de survie à la première personne, jouable en solo ou en coop, en ligne jusqu'à 4. On y incarne un mercenaire envoyé à bord d'un vaisseau abandonné et on doit alors remplir des contrats dangereux et en sortir vivant, évidemment, pour pouvoir empocher la récompense. Plus le risque est grand et plus la prime est élevée. Avec les crédits remportés, on peut acheter entre autres de l'équipement et des outils pour ensuite tenter des missions encore plus dangereuses. Chaque mission change selon les objectifs, les coéquipiers, la carte et la créature intelligente qui nous traque. Et oui, nous sommes du gibier. Le spécimen est choisi de façon procédurale parmi un pool de monstres. Chacun possède son propre comportement, ses forces et ses faiblesses. Il faut donc découvrir à quel type de monstre on a affaire pour pouvoir agir en conséquence. Les armes à feu ne sont pas toujours utiles, puisque certaines créatures sont trop puissantes, voire intouchables. Mais le bon outil ou la bonne arme spéciale au bon moment vous sauveront les miches. Il coûte 10 euros. Il y a une démo gratuite sur Steam si vous voulez l'essayer. Et il est en ce moment dispo dans un bundle avec Dark Hours pour 18 euros. C'est un survival horror en coop également. Voilà.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Bettina. Rebonsoir, rebonsoir Géna, j'allais dire Neige d'Oreille, excuse-moi.
C'est mon ça pseudo sur les internets, hein, ça marche aussi. C'est même plus simple de me trouver sous ce nom-là, probablement, si vous arrivez à l'écrire.
Et c'est vrai que je t'ai toujours appelé Neige, en fait, donc forcément.
Bah oui, mais on s'est pas beaucoup parlé, donc logiquement.
Voilà. Eh bien, Géna, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bah, merci de m'avoir invité.
Première question très simple. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fous là?
Alors moi c'est Géna.
Je pense qu'on va finir par y arriver. Hein.
Je suis créatrice de jeux. Je suis aussi vice-présidente de Lyon Game Dev depuis un peu plus de 2 mois.
Ok.
Félicitations.
Donc l'association locale de jeux vidéo où on s'efforce de mélanger un peu tout l'écosystème. En faisant des soirées tous les mois, on est entre 100 et 200 chaque mois. C'est assez énorme.
Oui, la scène lyonnaise est quand même un petit peu active, comme nous le raconte Bettina toutes les semaines.
Bah, du coup, ça fait à peine 2 ans que je suis sur Lyon, donc ça fait vraiment trop plaisir de rejoindre une communauté aussi active et aussi forte. Ça fait depuis 2 ans aussi que je suis chez Lyon Game Dev et que je fais des choses avec eux. Et là, du coup, depuis peu, je les ai rejoints pour les supporter un peu plus par le haut, entre guillemets.
Et donc, si tu as rejoint Lyon Game Dev, c'est parce que tu avais une activité en tant que développeuse de jeux.
Ouais, en fait, à la base, c'était mon chef de projet quand je suis arrivé sur Lyon, parce que j'avais trouvé du taf à Lyon, okay. Qui était président de Lyon Game Dev. Du coup, je travaillais sur j'ai travaillé sur 2 jeux dans le studio, dont un jeu Gundam en VR.
Quel studio, si c'est possible?
Ça s'appelait, il existe toujours le studio, mais il n'est plus à Lyon. Ouais. Ça s'appelle Atlas V, la maison mère s'appelle Atlas V, okay. Et le studio s'appelait Albion. Mais d'accord, du coup, c'est Albion avec un pas le Albion. Jeu. Okay, ouais. Ce n'est pas le jeu que vous connaissez. ça n'a rien à voir, c'est un studio qui fait de la VR. Voilà. Et du coup, ils ont fermé les locaux lyonnais en août de l'année dernière. C'est le moment où j'ai commencé du coup, à travailler sur Contenir à plein temps. Parce que j'avais envie de faire ça. Et en plus, j'avais plus de taf. Donc c'est pratique.
Ouais.
On a plus de temps dont on n'a pas de taf à plein temps.
C'est ça. Et puis, t'as des droits au chômage aussi?
Oui, j'avais des droits au chômage. D'ailleurs, je pensais avoir droit qu'à 1 an. Et en fait, j'avais droit à 22 mois, mais je ne savais pas.
Okay.
Du coup, je suis encore chômeuse techniquement. Ouais. Et c'est tant mieux parce que mon jeu prend plus de temps que ce que je pensais à développer. Donc, je suis encore bien.
Ouais.
Ah, mais France Travail qui s'impose d'émission en émission comme toujours le
principal sponsor.
Principal sponsor et soutien de la création de jeux vidéo indépendante en France.
Bah, oui. Ouais.
Après aussi, on travaille, on cotise pour.
C'est pas là, ici que tu vas entendre des gens qui vont revenir sur.
Ah
sur
non, ces, c'est pas trop.
Sur ces acquis là.
C'est pas trop l'esprit là, effectivement. Avant d'évoquer la partie Lyon Game Dev dont tu es devenue donc vice-présidente il y a peu, j'aimerais qu'on parle d'abord de comment tu es arrivé au jeu vidéo et à faire du jeu vidéo.
Je suis arrivé en fait. J'ai toujours fait des jeux aussi longtemps que je me souvienne. À la base, c'était pas des jeux vidéo, je faisais du jeu de société. En fait, en régional, j'avais toujours tendance à prendre ce que j'aimais et essayer de le faire moi-même. Quand j'étais petite, je voulais devenir romancière, mais je faisais déjà des jeux de société à côté. Et du coup, quand j'ai pu avoir un ordinateur entre les mains et que j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai très rapidement commencé à faire des jeux, donc vers mes 12-13 ans. Derrière, je suis allé progressivement de plus en plus en me disant bah, en fait, je peux essayer d'en faire un métier ou quoi. Je voulais faire ça à la fin du lycée, je voulais partir vers du jeu vidéo. Ma mère voulait que je fasse une école d'ingénieur ou un diplôme un peu plus sérieux que d'aller directement en jeu vidéo. J'ai fait une école d'ingé, j'ai fait 5 ans d'études. Mais en fait, ce que je faisais surtout, c'était que sur le temps libre de mes études, je faisais des game jams, je créais des jeux. J'ai cherché à avoir des stages dans le milieu du jeu vidéo. C'était un peu adjacent, mais... mon premier stage était un peu adjacent, mais à la fois pas vraiment. Mmh. Et mon deuxième était vraiment dans le jeu vidéo.
D'accord. Donc un côté déjà très le côté déjà très formateur des game jams sur entre le temps limité et le côté et les rôles très différents qu'on peut endosser dans les game jams et le côté aussi j'imagine créativité qu'il faut développer en relativement peu de temps. Des choses qui t'ont plu qui continue de t'influencer aujourd'hui ou plus trop?
Alors, j'ai un peu calmé le jeu sur les game jams parce que mon premier taf plus vraiment dans l'industrie du jeu vidéo un peu plus classique, c'était dans l'hypercasu où du coup je faisais un jeu toutes les deux semaines. Okay. Après avoir fait ça pendant un an, j'avais plus trop envie de faire des game jams. Mais du coup j'en fais quand même de temps en temps. En réalité, malgré le fait que je dise ça, j'en fais toujours une à deux par an. Ça reste quand même raisonnable. Mais c'est pas non plus... Je suis un peu parti justement en opposition avec cette idée de faire des jeux rapidement qui sont pas forcément très qualitatifs, à essayer de produire justement un truc très très léché et en prenant le temps de faire un truc qui ait du sens pour moi et potentiellement pour les autres aussi. J'ai l'impression que ça a du sens aussi pour les autres. Vu comment ça se passe.
Mais du coup, c'est game jam. Enfin, il y a beaucoup de compétences nécessaires dans le jeu vidéo. Enfin, je sais pas vers quoi tu t'es dirigé. Qu'est-ce qui t'a le plus toi en tout cas.
Moi, dans les game jam, c'est aller jusqu'à je fais un jeu toute seule. Okay. Je suis littéralement l'organisatrice de la game jam et j'ai pas le temps de partir te faire un jeu.
D'accord.
Donc j'ai fait.
C'est vraiment tout, que ce soit du graphisme, que ce soit du game design.
Sur lequel je touche pas trop, et encore, je le fais des fois. C'est le son.
D'accord.
Je la musique. Vraiment pas très très bonne en
sound design.
Sound design et musique.
Okay. Ouais, j'ai déjà fait les deux, mais à la limite, je suis plus à l'aise en sound design qu'en composition, parce que j'ai rapidement mal à la tête. En fait, quand j'essaie de composer, j'ai facilement des maux de tête. En général, selon les sons dans mon environnement, etc. Mmh. Et du coup, quand j'essaie de composer, souvent, ça me fait mal à la tête rapidement. Et du coup, c'est plus difficile de devenir bonne à un métier si tu peux pas le pratiquer beaucoup.
Oui. Mais du coup, t'es complètement touche à tout.
Ouais, de fou. Même dans une des boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, il y avait la CEO qui était impressionnée par à quel point je m'intéressais à tous les pans de l'entreprise. Au moins, elle était en mode, tu vas aller lire nos comptes bientôt. Je suis en mode, si je peux, oui. Parce que ça m'intéresse énormément, parce que aussi, je voulais savoir tout pour pouvoir faire des jeux vidéo, pour pouvoir en faire moi-même. Ouais. Et c'est ce que je fais maintenant, du coup. Et c'est quelque chose qui me sert beaucoup, parce que je suis solo dev, du coup, sur Contenir. Mmh. Je dis solo dev, en réalité, je paye des gens pour faire des trucs, quand même. Genre, notamment le son, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai payé des voix aussi pour le voice acting du jeu. Voilà.
De toute façon, oui, c'est souvent comme ça. En fait, quand on dit solo dev, la personne n'est jamais complètement seule. Il y a un moment donné où elle a un peu d'aide sur des petites choses plus ou moins ponctuelles.
Après, juste il y a des surprises, des fois il y a quand même des gens.
Je dis pas que ça existe pas, oui.
Bah alors, alors tu verras ça vers 2-3 heures du matin, mais Geoff Keighley il est pas forcément d'accord avec ta définition de solo dev.
Il aime bien les jeux faits par un solo dev et plein de ses amis.
Et tous ses potes.
Il a une définition assez large.
Ouais, effectivement.
Du solo dev.
Mais du coup, tu as aussi un profil autodidacte où vraiment tu te formes toi-même sur tout ce qui te passe sous le nez en fait.
Oui, complètement. J'aime beaucoup apprendre des nouvelles choses. Je n'hésite pas à aller plonger mon nez dedans. Là, notamment en faisant mon jeu, j'ai commencé à apprendre un peu plus sur comment est-ce qu'on faisait du développement business, à aller rencontrer, parler à des interlocuteurs divers. J'ai eu des questions un peu de, pas vraiment de recrutement, mais de choix de prestataires aussi qui sont posés, que je n'avais pas avant. Parce qu'avant, c'était tout le temps du bénévolat et de l'entraide. Là, j'ai dû payer des gens parce que je fais des trucs qui vont me rapporter de l'argent. Je ne vais pas le donner gratuitement, contenir, a priori. À moins que j'ai vraiment plus aucun problème de sous dans ma vie.
Je te le souhaite.
Oui, ça serait trop bien, mais c'est aussi pourquoi je veux en contenir, c'est pour avoir moins de problèmes de sous potentiellement.
Oui, là, du coup, ça se mord un peu la queue, c'est compliqué. Hein, le capitalisme, tout ça, c'est un peu chiant.
Si je pouvais distribuer tous mes jeux gratuitement et vivre super bien quand même, je le ferais en fait. Oui. Parce que ce que je veux surtout, c'est créer des œuvres qui parlent aux gens et pouvoir les distribuer à un maximum de gens. Mm-hmm. Mais malheureusement, on vit dans un monde capitaliste, voilà.
Bah tiens, justement, du coup, ça me fait une transition. Comment est né le projet Contenir, peut-être avant même que tu nous le présentes, ou tu nous le présentes d'abord et tu nous racontes la genèse
comme tu veux, ça m'est égal.
Prends-le dans le sens
je vais le raconter dans le sens de la genèse.
C'est ton émission.
Parce que ça apporte aussi quelque chose. Ah, c'est mon émission maintenant. Tu changes le nom sur Spotify maintenant.
Écoute, on mettra Mickey Guevara et Neige Dorée. Ok, là, ça marche. Bon, les autres non. C'est bon. J'en veux pas.
J'ai pas de compte où je peux distribuer. Je crois sur Spotify dans tous les cas.
Eh ben, tant mieux parce qu'on emmerde Spotify.
Oui. Du coup, c'est assez drôle parce que c'est né bien avant que j'en parle sous ce nom-là. Parce qu'à la base, c'est né d'une game jam, le concept gameplay. Le jeu s'appelait Black Box. Il avait été fait pendant une game jam organisée par Devolver, qui était la game jam qu'ils avaient organisée pour la sortie de Discroom, un jeu qui n'a pas particulièrement marché dans le grand public. Mais moi, vu que je suivais beaucoup Devolver, j'écoutais leurs podcasts à l'époque, parce que ils ont des podcasts. Voilà.
Mais c'est parce qu'on ne parle pas anglais, donc.
Ah oui, c'est pour ça. Ouais, je suis un peu trop bilingue. Oh my god.
D'ailleurs, continuez cette émission en anglais.
Allez, c'est okay, bon. No problem.
C'est bon pour toi, Bettina ?
Non, s'il vous plaît.
Et surtout, la vraie question, c'est est-ce que c'est bon pour les auditeurs qui ne s'attendaient pas du tout.
Mais
à
on
ça
s'en fout. Oh là là.
Ils vont faire un effort.
Non, du coup, j'avais vraiment juste la mécanique de déplacement où, du coup, le jeu, c'est un jeu où on se déplace par dash. Genre, on va d'un mur à un autre. On n'a pas de contrôle en dehors du moment où on choisit où est-ce qu'on va aller. Et du coup, à la base, je voulais que ce soit un jeu du coup très mécanique et qui était censé être un bullet hell, donc un jeu où tu as plein d'informations partout et tu dois réussir à trouver un chemin entre ces trucs-là en le prévoyant un peu. Le jeu, au final, ne ressemblait absolument pas à un bullet hell, il ressemblait plus à du platformer,
ouais.
Déjà à l'époque, mais c'est du parcours très arcade. Et pendant à peu près un an, j'essayais à côté de mon taf de l'alimenter. Et d'en faire un truc que je pourrais sortir. À la base, je pensais le sortir sur mobile.
Donc sous le nom Black Box. Donc.
Sous le nom Black Box. Okay. Il est d'ailleurs toujours dispo sur Itch sous le nom de Black Box, ce projet-là. Il a une esthétique différente, etc. C'est vraiment juste la mécanique de déplacement qui est la même, qui est quand même très centrale sur la manière de jouer, quoi. Et du coup, j'en avais eu marre, je savais pas ce que je voulais raconter avec. Et justement, c'est là où c'est intéressant de raconter la jeunesse, c'est que justement, ouais, t'as ce truc de. En fait, avant, c'était un projet qui était purement gameplay, mais en même temps, j'étais dans cet environnement où c'était le moment où je faisais un jeu toutes les deux semaines. J'en avais marre de rien raconter en fait dans mes jeux. Voilà. Du coup, je cherchais un truc à raconter avec et je savais pas quoi. Et je me suis juste arrêté parce que j'en avais marre. Et à un moment, pendant que je travaillais sur Gundam, il y a mon directeur technique, enfin mon lead dev, qui a testé mon jeu. Et qui était en mode, mais c'était trop bien, pourquoi est-ce que tu n'en as pas fait quelque chose? Et je lui ai dit, j'ai essayé d'en faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi raconter avec. Et à ce moment-là, j'étais en train de divorcer, j'étais en train de réfléchir un peu à ma vie, et je me suis dit, mais en fait, je peux raconter des choses sur ma vie qui font du sens pour moi, là, tout de suite. Je peux parler de la manière de gérer mes émotions, je peux parler de ma transition, je peux parler de plein de choses, d'une manière cohérente, et le raconter à travers ce jeu, d'une manière qui va relier la manière de jouer, les émotions qu'on ressent en jouant, et la chose qui est racontée à travers du voice acting et des textes qui sont écrits pour.
En fait, c'est intéressant la manière dont tu en parles, notamment quand tu avais dit au tout début que tu voulais surtout raconter des histoires et que finalement tu racontais l'histoire et tu ne pouvais pas t'empêcher de faire des jeux de société en même temps. Et, oui. Et oui. En fait, je trouve que je pense dans le studio on a tous joué à Contenir pendant l'Indie Gamion un événement, un petit événement, je sais pas si vous en avez entendu parler.
Ça vous dit quelque chose, ouais.
Parce que non,
je pense qu'il faut expliquer ce que c'est parce que Bettina ne doit pas.
Non, en fait le truc c'est que
Elle nous a pas donné les dates en avant-première il y a deux semaines.
Non, déjà, je tiens à dire, 21h27, c'est le plus tard où on a cité Indie Game depuis le début de saison.
On est déjà 27, waouh.
Ouais. Je voulais en parler pendant ma chronique quand je parlais de WannaDev et j'ai rien dit.
Et déjà en fait, et je voyais quelque chose où je trouvais super intéressant cette juxtaposition en fait entre le côté très gameplay d'un côté et le côté extrêmement narratif de l'autre, qui m'avait fait penser notamment à une phase que je ne spoilerai pas de Nier Automata notamment, où on te raconte une histoire en même temps que t'es en train de jouer, etc. Et j'avais trouvé ça, le concept très très accrocheur et
très efficace,
ouais. Et ça se et je trouve ça intéressant que ça se retrouve jusque dans la entre guillemets la genèse de comment tu abordes
ce
rigolo, métier.
Parce qu'en plus, Nier Automata prend beaucoup des codes du Dan Makou et du coup du Splatel.
Bah oui.
Donc on a vraiment une genèse assez rigolote là-dessus. Moi, à l'époque, quand j'étais petite, que je voulais être romancière, la connexion entre les deux n'était pas trop faite. J'ai vraiment fait assez récemment la connexion entre l'aspect raconter des histoires et créer des jeux. Pendant longtemps, je faisais des jeux justement non narratifs. Là, c'est techniquement mon deuxième jeu narratif en fait, en réalité. Donc, je suis très très contente que les gens ils accrochent avec l'histoire, alors qu'en fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant écrit, enfin, que j'avais mis autant d'énergie dans le fait d'écrire quelque chose aussi. Donc c'est assez fou. Je suis très très contente. Oui, parce que j'ai dit que ça plaît aux gens parce que du coup je l'ai fait tester à l'Indie Game Lyon, mais aussi à d'autres événements à travers la France et notamment du coup il y a un peu plus d'un mois.
T'étais au Stun.
J'étais au Stunfest.
Oui, voilà.
Et au Stunfest, j'ai gagné un prix.
Non, je rigole. En fait.
Quoi? Coupe.
Alors, vous avez raté une information intéressante. Ouais. T'as gagné un prix.
J'ai gagné un prix au Stunfest en fait. J'ai gagné le prix espoir du jury.
Wow.
Donc aussi, voilà, je commence à avoir un peu de reconnaissance, un petit peu de. Genre, je fais quelque chose qui parle à des gens, quoi. Très clairement. Je sais pas à quel point ça va se vendre ou quoi, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, je suis très très contente de pouvoir parler aux gens, leur faire ressentir des choses.
Oui, vraiment, puisque tu disais c'est aussi, c'est que c'est la plupart des retours des joueurs qui te font en direct, c'est que, enfin, tu vois que ça les touche, que la plupart te disent waouh, ouais, l'histoire est incroyable, enfin pas incroyable, mais elle est touchante, elle leur fait vivre des émotions, et du coup tu l'as constaté à chaque fois.
La première fois que j'ai constaté, du coup, c'était à l'Indie Game Lyon. Parce que avant, mes versions d'avant, elles n'avaient pas encore certains niveaux qui ont été introduits. Et c'était encore plus courte, parce que la version que j'avais à l'Indie Game Lyon, c'était une version qui durait 3 minutes de temps de jeu moyen, enfin médian. Du coup, c'était déjà très très court. Et j'avais des gens qui étaient vraiment très 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 émus. Bah, d'ailleurs, il y avait, pendant l'émission que vous aviez fait, vous parliez de l'Indie Game Lyon sur ta chaîne.
Avec Lysandra.
Avec Lysandra. J'avais pu voir aussi Lysandra qui en parlait très bien de ça aussi.
Et tu avais repris une citation.
J'avais récupéré une petite citation.
Ouais, Lysandra repris sur ta fiche Steam, etc.
Oui, c'est vrai que je la cite aussi sur ma fiche Steam.
Oui, c'est pour ça. Ouais.
Tout à fait. Mais même, j'ai utilisé quand je parlais des éditeurs aussi, la petite vidéo. D'ailleurs, du coup, l'un des trucs qui était assez fou dans mon aventure de Contenir, c'est que je suis allé à un événement de l'industrie qui s'appelle le Game Camp. Et j'ai pu parler à quelqu'un de Devolver.
D'accord.
Et du coup, j'ai commencé à lui dire, en fait, mon jeu, à la base de la base, je l'ai créé pendant une de vos Game Jam, pendant que j'écoutais votre podcast. Et mais vous savez, les joueurs savent qu'on a un podcast.
La grosse fan de base.
Éditez-moi.
Bah oui, bien sûr.
J'ai grandi avec vos jeux.
C'est ce qu'il faut faire, de toute façon.
Mais pour l'instant, ils m'ont dit non, mais on sait jamais.
Mais demain, ils diront oui.
Ce qui est très cool, c'est que tu as pu avoir une discussion avec une personne qui semblait intéressée, même si l'éditeur derrière, lui, ne l'est pas pour l'éditer. N'empêche que c'est hyper positif.
Le jeu avait quand même été apprécié par elle et par une partie de l'équipe. C'était plus en termes de direction éditoriale.
Voilà,
et
c'est ça.
Potentielle rentabilité, que ça faisait pas de sens pour eux. Voilà.
Il nous faut maintenant un instant un petit peu un petit peu buzz, un petit peu qui fasse de l'argent, qui fasse, parce qu'on est sur Twitch là, donc il faut y aller. Tu as cité.
Envoyez des subs.
Tu as cité.
Vous pouvez pas, monsieur, je suis pas affilié. Je
suis sur pas affilié. La fiche Steam de ton jeu. Jeff. Il y a, je cite, ton jeu a une âme. C'est super rare les jeux qui ont une âme. Cité, signé, Head of Publishing, at étoile, 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 étoile. Oui. Va falloir se mouiller, Géna.
Il est problématique, hein. Mais c'est lui. Hein, le...
tu peux dire non. Hein.
En vrai, c'est pas vraiment secret. Le truc, c'est que je voulais pas le mettre parce que je voulais pas le citer directement sans lui demander son autorisation.
T'as bien fait,
je pense.
C'est le directeur de production de Playdigious, du coup, qui avait dit ça. Voilà, c'était la deuxième fois que je le voyais parce que du coup, c'était assez rigolo. Je l'avais vu. En gros, j'avais commencé à écrire un petit peu ce qu'allait être le projet avant le Stone Age, l'année d'avant, pour justement le présenter à des éditeurs une première fois au Game Camp avec juste genre une explication de ce que c'était le jeu. Et du coup, c'était l'un des rares éditeurs que j'avais pu voir cette fois-là. Et je l'ai revu du coup cette année avec ce coup-ci le proto et j'ai pu avoir la différence de réaction entre avant où il avait juste le concept sur papier et là vraiment le jeu entre les mains, même s'il n'est pas fini, hein, mais voilà, le concept un peu exécuté. Et du coup, j'ai pu voir que, bah, oui, il était bien plus enthousiaste. Par contre, il m'a dit lui aussi qu'il n'allait pas éditer. Mais
le proto, Indie Game Lyon, que tu as présenté au Stone, justement, il fait à peu près combien de temps?
Alors, à l'Indie Game Lyon, il faisait environ 3 minutes. Au Stone Fest, il faisait plus dans les 6-7 minutes.
Okay.
Parce que y a eu quand même quelques mois entre temps, voire même quasiment 6 mois. Donc,
Est-ce que, justement, pour expliquer aux gens entre la version démo et la version finale, parce que j'imagine que en tant que solo dev, tu es aussi bien développeuse que produceuse que plein de choses différentes.
Oui, tout, hein,
et voilà, et que enfin, donc tout. Tu as déjà défini évidemment un objectif de fin à du développement et le temps que ça prend entre justement de faire 3 minutes de jeu effective, de faire X minutes de jeu effective, etc.
Le truc, c'est que je traque pas très 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 bien mon temps. Donc je peux pas te dire, ça m'a pris tant de temps exactement, etc. Mais du coup, entre août et l'Indie Game Lyon, il y avait du coup quand même pas mal de temps. Hein, parce que il y avait du coup toute la fin de l'année 2024, puis jusqu'à mai 2025.
Ouais.
Et du coup, ça m'a pris tout ça. Sauf qu'en réalité, c'était pas surtout faire les minutes de gameplay. Mm-hmm. C'est basé surtout que j'avais du coup déjà cette base de gameplay qui était là où tu pouvais bouger, etc.
Donc celle de Black Box.
Celle de Black Box, parce que j'ai littéralement repris le code de Black Box à la base.
Bien sûr.
Ce que j'ai fait surtout, c'est que d'abord j'ai tenté d'exécuter la direction artistique, la nouvelle direction de gameplay au sens, du coup, qu'est-ce que je veux faire ressentir avec le gameplay, etc. Et écrire un premier niveau et essayer de voir ce que ça allait donner. J'avais un premier niveau en décembre où je l'avais pu le faire tester au Meetup Lyon Game Dev, du coup, où j'avais eu une trentaine de personnes qui l'avaient testé à ce moment-là. Non, une quinzaine. Et après, on voit, tu vois, pour avoir un premier niveau, ça m'avait pris 4-5 mois. Et après, deuxième, troisième niveau, je les avais en février. Enfin, je les avais en janvier, un truc comme ça. Et puis après, pour l'Indie Game Lyon, j'avais pas forcément énormément plus, mais j'avais commencé à préparer plus de choses. Notamment, j'étais en train de me j'avais fait une demande au CNC entre temps, j'avais fait pas mal de choses. Parce qu'en fait, il n'y a pas que du temps dans la programmation. J'avais commencé à avoir pour faire la version anglaise progressivement et tout. Parce qu'au moment de l'Indie Game Lounge, j'étais aussi en train de préparer du coup le Game Camp. Et je savais déjà que j'allais peut-être voir Devolver. Et du coup, j'étais déjà en mode, bon, faut que j'ai une version anglaise pour Devolver.
Juste, Bettina, tu peux expliquer vite fait ce qu'est le Game Camp, pour ceux qui ne sauraient pas?
Ouais, rapidement, le Game Camp, c'est un rendez-vous professionnel où il y a des conférences, des masterclass, des rendez-vous. Il y a un système où, justement, des développeurs, développeuses peuvent prendre des rendez-vous avec des pros ou des éditeurs. Voilà, dans les grandes lignes.
Et c'est en France, non?
C'est à Lille.
C'est à Lille, ouais. Ok. Mais d'ailleurs aussi dans les gens qui étaient là cette année, il y avait Game Next Door qui était là.
OK.
Il y avait Hugo et
Max.
Max de Game Next Door qui était là, j'avais pu parler à Max, je crois.
Je vais en oublier ma question. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu ambitionnes de faire à la fin de pour contenir combien de temps de jeu global et combien de niveaux?
Alors là tout de suite,
sachant que ça peut bouger, on le sait, mais
là en ce moment, je suis en train de me focus justement pour faire la partie narrative et me dire ce que je veux, c'est déjà avoir toute l'histoire qui est racontée. Okay. Et après, peut-être mettre du fluff, voir comment est-ce que je règle le temps de jeu, etc.
Okay.
Du coup, pour l'instant, en fait, je me soucie pas trop du temps de jeu.
D'accord.
L'objectif initial, c'était d'avoir dans les deux heures à peu près, vu du coup, justement, le fait que j'avais que 3 minutes au bout de quand même pas mal de temps. Je pense que les 2 heures, ça va être compliqué. Mais après, j'ai trouvé des astuces entre-temps, justement. C'est pourquoi est-ce que ça doublait de temps avec le Stunfest, alors qu'en fait, au milieu, j'étais surtout occupé sur du Bizev. Mm-hmm. C'était parce que j'étais en train de réfléchir à comment rallonger le temps de jeu. Et du coup, j'ai introduit des niveaux non narratifs entre les niveaux narratifs. Mmh. Ce qui fait que du coup, le temps de jeu a doublé. Parce qu'en fait, j'ai 2 fois plus de niveaux. Mais c'est des niveaux qui m'ont pris beaucoup moins de temps à produire.
Oui.
Oui, ça me rappelle. Ça me rappelle ce jeu où on incarne un rectangle, un carré.
Thomas Wazelot.
Où justement, qui introduisait aussi des niveaux qui étaient non narratifs certaines fois, alors que c'est un jeu extrêmement narratif. J'adore beaucoup. Super. j'aime beaucoup ce que fait justement l'auteur. Là-dessus, notamment sur sur Quarantine Circulaire et sur Subsurface Circulaire, et cette manière de raconter les jeux. Ouais.
Le seul autre jeu auquel j'ai joué de Beat Hell, du coup, le créateur de Thomas Wazelot, c'est Solitaire Conspiracy.
Ah, il est cool.
Il est trop cool.
Il est très très cool aussi. Ouais.
Il paye pas de mine, mais il est trop bien. Ouais. La narration over the top, machin. Et du coup, j'en ai parlé sur les réseaux en mode c'était une surprise trop bien. Et du coup, le créateur a reposté mon message en disant c'était exactement ça l'intention d'être over the top sur un truc très simple. Pourtant, et ça marche trop bien. Il a des séquences en vidéo où il met un effet holographique dessus. Du coup, la narration est faite en vidéo classique, quoi. C'est pas des modèles 3D, c'est pas de l'animation.
Ah ouais, d'accord.
C'est vraiment, il s'est pris en vidéo lui-même, quoi.
Parce que
c'est un acteur, je sais pas, mais.
En fait, parce que la technique employée là-dedans, enfin, c'est vraiment une parenthèse, je pensais que. La manière dont c'était fait, il avait pris un modèle 3D et puis qu'il avait mis dessus.
Je pense pas que ce soit le cas. Après, je vais pas demander, tu vois, pour le coup. Mais ça me semble limite plus simple d'avoir qu'il se soit pris en vidéo et qu'il applique un effet dessus.
Mais pour revenir à Thomas Wazelot, effectivement, pour toi, en fait, quand j'en ai parlé, il y a une filiation entre les.
C'est une référence très claire. Mon concept de base, c'était de prendre Thomas Wazelot et Gris et de prendre le meilleur des deux et de les allier pour en faire un truc qui soit très très fort émotionnellement, quoi.
C'est bien, c'est une bonne façon de vendre le produit final.
Mais ce qui est drôle, du coup, c'est que les joueurs me référencent aucun des deux, déjà parce que c'est pas une référence qu'ont tant les joueurs. D'accord. Par contre, ils me référencent Céleste à la place. D'ailleurs, un des trucs qui avait aussi été dit pendant
le guide. Oui.
Et du coup, c'est drôle parce qu'il y a quand même une petite inspiration de Céleste, notamment par rapport au moment où il y a Madeline qui apparaît. Donc le
double maléfique. Oui.
Disons, qui est un moment très intense émotionnellement et où tu vois vraiment cette connexion entre le gameplay et ce qui est raconté à travers l'émotion.
Bien sûr, dans CS, un des moments très forts, c'est le moment où tu as le double saut, l'espèce de double dash. Quand tu te réunis avec.
Quand tu te réunis avec. C'était plus le moment où elle apparaît, où il y a le stress qui monte, etc.
Oui,
tu découvres vraiment avec une forme de conflit intérieur.
Ah, d'accord, ok.
Qui était assez intéressant, et puis ça correspondait pas mal à ce que je raconte sur le début de Contenir, où vraiment tu as ce stress vraiment de débat intérieur, d'émotions, etc. Où c'est ça qui va te. Tu vas fuir un peu tes émotions, littéralement. C'est ce qu'elle fait dans le jeu au début.
Et du coup, tu nous as raconté la genèse du projet et tu nous as un petit peu expliqué comment est le jeu, mais tu nous as pas pitché. Et donc,
j'ai pas pitché. Oui.
Bah vas-y, je t'en prie.
On a raconté le jeu dans tous les sens,
mais on n'a pas commencé par le début.
Ouais. Contenir, c'est un platformer narratif où on parcourt la vie d'une femme trans de son enfance à l'âge adulte, donc avant qu'elle sache que c'est une femme trans, jusqu'à ce qu'elle transitionne. Mais ça parle pas que de transition, ça parle aussi de relations romantiques, ça parle aussi ça va même parler de harcèlement, ça va parler de gestion émotionnelle en général.
De plein de choses de la vie en général.
Ça parle de la vie, après ça reste vraiment sur un univers intérieur, ça reste assez abstrait comme histoire. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur, en termes d'écriture, je suis un peu inspiré de ce que fait Amélie Nothomb. Où du coup, on va pas donner les noms des personnages, on va pas aller décrire leur coupe de cheveux dans les détails, etc. À moins que ça ait une importance émotionnelle ou narrative pour l'histoire. Vraiment, je reste. L'idée, c'est que le joueur puisse se projeter un maximum tout en ayant l'action qui soit quand même relativement claire. Bon, pour l'instant, vous en avez pas encore. encore vu assez pour que tout soit correctement ficelé, mais j'ai commencé à écrire un peu plus, et du coup on a vraiment un truc où tu peux commencer à vraiment suivre des lignes directrices de ce qui se passe, etc., sur la durée aussi, et que ça commence à dessiner un personnage à travers ses actions, en fait.
Ok. Et du coup,
et ses sentiments.
Et du coup, c'est un jeu qui est inspiré en partie de ce que toi tu as pu vivre, mais ce n'est pas un jeu autobiographique.
C'est semi-autobiographique. Ça raconte quand même des expériences vécues, mais il y a des libertés qui sont prises. Déjà, c'est pas genre. Ça le raconte à travers un journal intime, c'est pas littéralement ce que j'ai écrit quand j'étais petit. Ouais. Parce que quand j'étais petit, j'écrivais pas beaucoup sur mes sentiments.
Moi, j'ai relu mon journal intime de quand j'étais petite, c'était nul à chier.
J'ai brûlé le mien.
Moi, j'ai relu des trucs que j'avais écrits quand j'étais petite, c'était pas si nul, mais c'était des trucs que, quand même, j'étais au collège, donc c'était pas si petite que ça. Mm. Mais c'était pas par rapport à moi, quoi. C'était vraiment, j'écrivais, je voulais être romancière de science-fiction, de fantasy. Mm. Donc j'écrivais pas sur ce que je ressentais, etc. Ah oui.
Non, mais c'était des trucs nuls, genre il s'est passé ci, il s'est passé ça, et machin. Enfin, c'est inintéressant.
Gossip. Gossip littéralement.
Il y en a qui en ont fait des films pour autant. Ah, hein, bah. Rien qu'avec ça.
Des séries de des dizaines de saisons et tout.
Et, l'amour est dans le pré, tout ça.
Oh.
J'étais plus sur Gossip Girl, moi.
Oui, aussi, oui.
T'étais sur un drama coréen. Maman, arrête de mentir, toi.
Ben Ned.
On t'a repéré. T'es pas à l'écran, mais on t'a repéré.
Mais ouais, et aussi, en termes de gameplay, je vais pas rester sur nécessairement la même gamme que Thomas Wiseau, justement, où il reste très très dans la plateforme.
Qui était plateforme pure, le saut, quoi.
Ça, moi, je vais... Enfin, plateforme, mais surtout puzzle plateforme.
Oui.
Là où moi, je vais explorer de l'action plateforme, je vais explorer du puzzle, et je vais aussi carrément aller sur du rythme.
J'allais dire que des fois, il y avait une notion de rythme, notamment dans les niveaux... Enfin, je sais pas si t'en as fait plusieurs, mais il y a des niveaux qui sont, entre guillemets, timés. Vu que on a un temps défini pour finir le niveau, il y a pas un numéro, mais en fait il y a une mécanique qui fait que il faut que tu le finisses avant un certain temps. Je trouve qu'il y avait un côté presque rythmique déjà dans certains de ces niveaux.
Il y a un truc que tu n'as du coup pas encore joué parce que ce n'était pas du tout prêt au moment de l'Inigame Lyon. Okay. Mais il y a vraiment un gameplay rythme. Littéralement, vous allez avoir un scoop, je n'ai pas encore raconté sur les réseaux, mais je lis des fichiers Ozu. Donc Ozu qui est un jeu de rythme très, très connu, qui date pas mal, pour la partie rythme, c'est-à-dire ça va vraiment interpréter, du coup tu auras des trucs que tu dois vraiment faire pile poil en rythme, etc. J'ai demandé l'autorisation du créateur d'Ozu qui me l'a donné. Ça me fait trop trop plaisir de pouvoir utiliser les fichiers Ozu.
Après, de toute façon, il y a toujours eu un lien entre la plateforme action de manière générale et le rythme.
Ouais, ouais. Vu que la plupart des actions platformer ont des niveaux de rythme.
C'est des niveaux de rythme, soit qui sont non explicites, parce que en fait c'est la rythmique de comment les plateformes bougent, etc., qui t'impose un rythme que t'entends pas à l'écran, soit de façon ultra explicite, par exemple les niveaux de Rayman Legends.
On a beaucoup parlé de cela. Voilà, je les ai toujours pas testés. Mais oui.
T'as le temps.
Oui, bah, en j'ai surtout aller regarder une vidéo. Mais
oui.
faut que je le fasse à un moment parce qu'effectivement c'est intéressant. Moi j'ai vraiment pris. J'ai testé plusieurs approches, mais du coup j'en avais testé une aussi à l'Indie Game Lyon. Je crois que j'avais caché le niveau parce que justement j'en étais pas contente de mes playtests d'avant. Mais j'avais déjà une ébauche de ce niveau là, mais qui marchait pas aussi bien que maintenant. Où là vraiment j'ai un truc qui te dit tu vas aller à tel endroit à tel moment pour pouvoir avoir des points. Et voilà. Genre c'est relativement simple là-dessus, mais ça marche assez bien. C'est très agréable et ça fonctionne avec les mécaniques du jeu de base, quoi. C'est ça qui est pas mal, c'est que genre, j'ai toute cette gamme-là sans avoir besoin de changer le character controller ou quoi que ce soit. Ouais. On a toujours le même dictionnaire d'action. Mm-hmm. Dictionnaire, c'est un bien gros mot quand on a une seule, mais...
Oui.
Ouais, mais tu peux lui donner d'autres directions, d'autres sens, d'autres. Mmh. Ouais.
C'est ça. Même si c'est la même action. Toujours les mêmes actions, les mêmes contrôles, et du coup, tu vas quand même pouvoir faire du puzzle, faire de l'action, faire du rythme.
Ouais. Nativement, le contrôle, c'est avec quel type de contrôleur ?
Alors, du coup, je supporte un peu tout. Okay. Pour l'instant, j'ai pas encore de support clavier. Mais je, de base, j'ai la souris, le tactile et la manette qui sont supportées. Mm-hmm. Pendant un moment, j'ai hésité à dropper la manette parce que c'était pas aussi agréable.
Ouais, je me souviens que quand je l'avais testé à l'Indie Game Lyon, en fait, on avait discuté un peu de la différence entre la souris où c'était entre. Il y a certains niveaux qui étaient beaucoup plus faciles à la souris que lorsque il fallait que tu gères la direction avec la manette.
Ouais, moi, j'avais testé la souris, clavier, c'était. Beaucoup plus naturel, j'avais trouvé ça très naturel sans avoir testé autrement, mais ça m'avait semblé plus évident.
J'ai récemment ajouté de l'assistance à la visée qui est très très efficace.
Et voilà, un aimbot, c'est ça qu'on veut.
Basiquement, si jamais tu le règles au maximum, t'as quasiment pas besoin de prendre de décision. Oui.
Alors, c'est le mode histoire, ça s'appelle.
Ouais, mais
alors, j'ai envie de faire un mode histoire où vraiment tu joues pas.
D'accord. Alors, mais on rigole, mais en vrai, c'est une vraie option d'accessibilité qui est utilisée dans beaucoup de jeux.
Et je veux l'avoir, je veux avoir l'option mode histoire parce que pour plusieurs raisons, simplement de l'accessibilité, mais aussi il y a le fait que y a des joueurs qui ont du mal, enfin ça reste de l'accessibilité, mais bref, il y a des joueurs qui ont du mal à suivre l'histoire tout en jouant. Ça fait partie du truc de pas forcément tout saisir, mais il y en a qui se sentent frustrés vis-à-vis de ça. Et du coup, pouvoir repasser sur le niveau, mais sans avoir besoin d'y jouer, ouais. ça peut être une bonne réponse à ça. Je l'ai pas encore implémenté, donc je peux pas garantir à 200% que ce sera dans le jeu, mais normalement ça devrait y être.
Mais bien sûr, en tout cas, juste quand tu parles si on reprend Thomas Was Alone, où il y a quelqu'un, ou même un Stanley Parable, où il y a quelqu'un qui te parle pendant que tu fais des choses. Il y a beaucoup de gens qui ont des handicaps cognitifs plus ou moins sévères, où ça va absolument pas être compréhensible de faire l'un et l'autre en même temps, quoi. C'est pour ça, enfin, avoir déjà l'idée d'implémenter ce genre de choses d'un point de vue accessibilité, c'est toujours une bonne chose.
Oui, enfin, même pour les personnes qui ont un TDAH modéré comme moi, par exemple, ça devient compliqué, ouais. Alors que c'est pas particulièrement handicapant dans la vie de tous les jours, mais oui, écouter quelque chose en faisant une action, ça peut être bêtement compliqué.
Du coup, en rebondissant sur cette partie-là, est-ce que tu as eu des retours de joueurs qui étaient de joueurs et de joueuses qui étaient en mode, en fait, moi, je me suis concentré uniquement sur le gameplay, j'ai absolument rien entendu de ce qu'il y avait derrière.
Alors, j'ai eu pire que ça, j'ai des gens qui ont joué sans le casque. J'ai des gens qui ont...
Ah, oui, d'accord.
Un retour qui m'a beaucoup plu d'avoir. J'ai une personne sourde qui a joué au jeu aussi.
Ah, ok.
Là, du coup, pour
intéressant,
le coup,
ça.
Elle n'avait pas accès, tout simplement, à l'audio. Elle disait qu'effectivement, elle s'était censée moins immerger dans l'histoire. Mm-hmm. J'ai pas eu son retour en live parce qu'à ce moment-là, j'étais ailleurs et du coup, elle m'avait écrit un mot. C'est un truc que j'avais pas encore indiqué à Lyon non plus, que j'aurai la prochaine fois.
Du papier et des stylos.
C'est ça. Maintenant, j'ai un bloc. Comme
livre d'or.
Mon jeu a une esthétique autour justement du fait que en fait, je fais les dessins sur papier d'abord et après je les scanne et je vais pas redessiner les trucs. Je vais vraiment scanner et utiliser le scan, juste rajouter de la couleur dedans et l'utiliser dans le jeu. Et du coup, fournir un carnet où les gens peuvent écrire, sachant que t'es dans un journal intime, que t'as une esthétique un petit peu papier, c'est très sympa. Et en plus, c'est trop cool parce que du coup, j'ai des retours des joueurs. Ça me permet de m'écarter du stand, quand même avoir les retours de joueurs déjà.
Ouais, parce qu'une journée une ou plusieurs journées complètes de festival de ce type-là,
Oui, c'est
amusant.
Faut tenir la baraque.
L'Indie Game Lyon, ça avait été une épreuve. J'étais seul, j'avais quand même des gens que je connaissais pas loin. Mais c'était une après-midi, c'était la première fois que j'exposais dans une ambiance comme ça. Il faisait chaud, j'étais éclaté à la fin.
Je sais pas si t'avais tenu les stats, mais t'as vu combien de joueurs joueuses en tout?
L'Indie Game Lyon, je crois, je sais plus. Oh, je m'en mêle entre plusieurs événements maintenant. Trop d'événements, du coup, j'arrive plus à savoir. Je crois, je sais plus si j'en avais eu 30 ou 60.
Même 30. 30, moi, à mon avis, c'est plus 60 que 30, mais.
Oui, parce que moi,
j'avais vraiment beaucoup défilé. Ouais.
Si t'as 3 minutes, ça défile à mort.
J'avais 2 postes, donc ça devait
vraiment défiler. Ça me paraît, ouais.
Mais ouais, j'ai vu pas mal de monde.
Ouais, ça fait pas mal de monde, plus les gens qui discutent après, etc. Donc j'imagine que, ça doit être assez épuisant.
D'ailleurs, j'avais essayé de compter vaguement. Des fois, je dis, du coup, j'ai tant de personnes qui ont joué au jeu à peu près, qui ont testé le jeu. Et en vrai, ça commence à faire un nombre maintenant, parce que je dois avoir dans les 300-400 personnes qui ont testé le jeu, en fait. Alors que j'ai pas de démo publique. Hein.
Ouais. Mais tu t'es beaucoup présenté en direct, en fait.
Sur des
direct,
salons,
voilà,
sur des événements.
Auprès de gens qui sont suffisamment intéressés par le sujet pour se déplacer dans des lieux pour tester des jeux, quoi.
Et encore, du coup, j'ai été à l'Animasia, à Bordeaux, où du coup, bah, y a une partie jeux vidéo, mais c'est pas le cœur de.
Mais c'est pas le seul sujet. Ouais.
Mmh. J'avais des enfants, j'ai une fille de 8 ans qui a testé le jeu, des trucs comme ça. Okay. Voilà. C'est vraiment. J'ai eu, justement, et pareil, j'ai eu une personne sourde, j'étais à un autre événement où, qui était avec un autre public, où c'était du public queer et handy. Et du coup, j'avais eu d'autres personnes. C'est ça qui est trop cool à pas faire que les événements mainstream ou quoi.
Ouais.
C'est que ça te permet de voir plein de publics différents. Mmh. Et ça permet d'avoir plein de retours différents.
Ouais. Et justement, je voulais te demander, est-ce que t'as prévu un moment de mettre une démo publique ou pas?
Normalement, ouais, ça devrait arriver sur la première moitié de l'année prochaine.
Ok. Ouais.
Voilà.
Alors,
c'était un peu ma question d'après, enfin, sur le calendrier à venir, mais je sais pas si tu.
Ah non, mais
on arrivait tout doucement un petit peu à la fin.
Oui, ouais, non, mais moi je me disais, écoute, il reste quelques minutes d'émission, donc on va être simple. Il sort quand? Il coûte combien? l'éditeur.
Alors que
total,
tu vois,
là,
moi j'ai été poli. Moi j'ai été poli. J'ai demandé le calendrier tel que tu l'envisages pour l'instant, mais c'est exactement la même question.
C'est le moment où Xavier te demande des parts, attention.
bah, si t'arrives à m'éditer, si tu me donnes de l'argent et que t'arrives à me donner la visibilité, tu peux avoir des parts.
Écoute, j'ai une amie qui s'appelle Lissandra, on va en parler ensemble. Je vous ferai paraître l'émission, elle sera ravie. Voilà.
Non, mais du coup, j'ai pas de date de sortie, voire même simplement de sortie de la démo, j'en ai pas là tout de suite. Par contre, je sais que je veux sortir au moins une démo sur Itch. Début d'année prochaine, probablement une démo sur Steam un peu après, genre un ou deux mois après la sortie définitive du jeu. Vraiment, je sais pas, genre faut que j'avance.
Mais when it's ready,
en fait, je pensais au calendrier. Est-ce que tu as d'autres événements dans lesquels tu as pour l'instant prévu d'être présente?
J'ai candidaté pour l'Indie Game Lyon l'année prochaine.
Ah, oui,
peut-être.
Ah, il paraît qu'il y a quelqu'un, on lui demandera ce qu'elle en pense.
Alors, moi, je me souviens d'une discussion, Bettina, elle a dit encore.
Oh non, pas celui-là.
Déjà, l'année dernière, c'était. Oh là là.
Ça suffit. Hein.
Après, si vous ne me voulez pas cette année, je reviens l'année d'après, c'est pas grave.
Non, mais au-delà de ça, ouais, est-ce que tu as d'autres.
Je voulais ralentir un petit peu sur les événements, donc j'ai pas énormément prévu de trucs. J'aurais peut-être du playtest aussi sur Lyon avant. Et ce que je me dis surtout, c'est une fois que j'aurai ma démo de sortie, je vais essayer de refaire quelques salons, probablement, bah, du coup, autour de l'été. Autour de l'été de l'année prochaine, à peu près à la même période où j'ai fait les salons là, donc voilà. Mais je vais peut-être essayer de sortir de la France pour voir d'autres gens.
Ah, c'est okay.
Ça pourrait être cool.
On va ensemble du coup à la Gamescom, c'est ça?
Je suis allé cette année.
Ah,
hein.
Oh, ok.
J'ai pas présenté. Hein, ouais, mais ouais, je suis allé justement essayer d'attraper des éditeurs et c'était très très difficile.
Ah. c'est
parce que vous étiez 850 000.
Est-ce que c'est aussi, c'est aussi blindé qu'on le dit?
Plus, je pense.
Quel enfer. Okay.
Mais quand t'es soit passe presse, soit passe business,
ouais.
Tu peux y être plus tôt que les visiteurs.
Ah, il n'y a pas une journée d'avant?
Déjà, il y a des journées. Je crois qu'il y a une journée avant,
ouais.
Il y a déjà du monde pendant la journée. Mmh. Donc, c'est pas visiteur, mais je pense qu'il doit y avoir tellement de gens presse que
ouais, bah oui.
Ça doit être assez gros quand même. Surtout, bah, en fait, si tu y vas entre 9h et 11h, bah, il n'y a pas encore grand monde.
Mmh.
Et surtout, bah, si tu vas dans la partie jeu indé, ils sont en train d'installer tranquille, il n'y a encore personne.
Donc, tu peux discuter avec eux.
Du coup, tu peux discuter avec eux et ouais. Avec leurs éditeurs. Et ça, c'est bien, parce que j'avais pas de rendez-vous, parce que je m'étais prise un peu trop tard, donc j'avais pas réussi à attraper les gens assez tôt. J'ai vu, d'ailleurs récemment, j'ai reçu un email de Steam, de Valve,
ouais.
Qui me demandait à quels événements je serais présente pour pouvoir, genre, parce qu'eux, ils veulent savoir où est-ce que c'est intéressant pour eux d'aller aussi.
Ah oui, et puis pour faire les fameuses news qui remontent le jeu, etc. Non,
en termes professionnels, vraiment, c'est les événements
okay.
B2B, voilà. Et du coup, dans les événements sur lesquels ils allaient, il y avait effectivement la Gamescom.
Ça fait partie
et
des
du coup,
très
je peux
gros
leur dire,
trucs en Europe.
Ouais. Si vous venez à la Gamescom, allez-y, on se fait un rendez-vous, quoi.
T'aurais pas pu dire Indie Game Lyon.
Il n'y avait pas dans la liste. Mais du coup, on pouvait proposer des événements qu'ils n'avaient pas mis dans la liste.
D'accord.
Je ne sais plus si je l'ai mis ou pas. Mais
pour ça, il faudrait que l'Indie Game Lyon ait une page Steam. Mais je dis ça, je.
Le forcing y est là.
Là, c'était vraiment des événements plus business. Après, l'Indie Game Lyon a aussi une partie un peu business. Donc, ça peut faire du sens. Mais je pense que c'est quand même un peu petit. Je crois qu'ils avaient même pas mis qu'ils venaient au Game Camp, tu vois. Genre, je crois que c'était dans la liste où ils allaient peut-être y aller, mais les seuls qu'ils avaient validés, ben, il y en avait trois. Je crois qu'il y avait genre PAX, mince, comment il s'appelle, le truc de la GDC et, oui, ouais, et la Gamescom.
D'accord.
Je crois que c'est les trois seuls.
Ah ouais, bah donc on est sur on est sur des gros machins. Ouais, ouais, ouais. On est sur des très très gros machins. C'est-à-dire que t'as pas cité le Paris Games Week, qui est un énorme machin. C'est nul, mais c'est énorme.
Il y avait peut-être pas le Game Camp, mais il y avait peut-être la Paris Games Week dans le truc.
Ah, bref, peut-être.
Ouais. Je sais plus ce qu'il y avait dans la liste, okay, mais voilà.
Petite question, du coup, pour avancer doucement vers la fin de l'émission. Quand tu développes pas et quand tu fais pas, tu n'es pas présente dans 850 salons depuis le début de l'année dernière, à quoi tu joues ?
À quoi je joue ? Je joue à Balatro. Je joue à Balatro.
Oh, la mais... pauvre. On l'a déjà perdu. Le jeu sortira en 2035.
La secte des balatristes est toujours présente. La secte est toujours active.
Ça va, j'y joue
problème.
Depuis. J'y joue depuis un moment. C'était pas là, ça me bouffe pas mes journées.
Okay.
C'est le créateur de World Atro qui m'a fait m'y mettre. Il m'a trop parlé du jeu. Bah, j'ai fini par le tester.
D'accord.
Effectivement, bah, quand j'ai lancé, j'ai passé une nuit blanche dessus instantanément.
Bah oui.
C'était pas ce que j'avais prévu. Je voulais genre tester le jeu avant d'aller dormir. Et en fait, j'ai pas dormi du coup.
Je crois que c'est arrivé à pas mal de monde. Ouais.
Question subsidiaire, tu connais Ball Pit ?
Ah putain, j'allais poser la question.
Ouais, j'ai pas joué. Il a l'air trop bien. Le nom me faisait pas du tout penser à ce que c'était. J'avais vu que c'était Devolver et je suis un peu.
C'est un jeu Devolver, ça peut t'intéresser.
En vrai, il m'intéresse plus que ce que je pensais.
Il est très
mais bon, j'ai toujours pas lancé Silksong, donc il faut.
Non, mais Silksong, c'est nul.
J'avais beaucoup aimé.
Parlons de Ball Pit,
j'ai envie de lancer aussi.
Parlons de Ball Pit, le jeu qu'il essaie de vendre absolument à tout le monde, mais il l'a toujours pas acheté.
Non, non, que j'ai vendu à absolument tout le monde.
Mais tu l'as toujours pas acheté.
Je ne touche pas à la drogue,
voilà.
Je ne touche pas à la drogue, d'accord.
Monsieur distribue.
Je vends, je ne touche pas.
Et par contre, il a aucune part, rien du tout.
Bah, si t'avais des parts dans des voleurs, ce serait pas mal.
Ah, mais,
d'ailleurs, ils sont cotés en bourse.
Ah, mais évidemment. Mais attends, on parle d'éditeurs indés. Attends, on a fait ce débat dans le bar tout à l'heure, je crois.
C'est l'éditeur qui a marché sur le fait qu'il était indé, qui désormais est coté en bourse et te dit, je vais pas éditer ton jeu parce que je suis pas sûr qu'il sera assez rentable.
Bah oui, et qui a fait tous ces fameux showcases en disant, oh là là, regardez les gros trucs, comment ils se prennent au sérieux et tout ça.
Bah, les soi-disant punk de l'industrie.
Ouais, c'est ça. Mais une discussion intéressante entre
un peu punk, un peu
sur certains choix aussi de jeu.
Ouais. Quand j'ai parlé avec la personne de chez Devolver, elle était vraiment en mode n'importe qui peut ramener un jeu à être étudié, n'importe quel membre de Devolver peut ramener un jeu pour qu'il soit étudié par la team.
Okay.
Mais contrairement à avant, on le fait aussi passer par un aspect financier et du coup, il peut être refusé sur l'aspect rentabilité.
Et tu avais une discussion intéressante dans le podcast de Rami Ismail et Mike Rose,
qu'ils ont
lancé il y a peu de temps. Mais ils ont lancé ça il y a deux semaines, un truc comme ça.
Maximum, ouais.
Où ils ont parlé effectivement de comment Devolver était passé de petit indé à des mecs en costard qui ont le pognon, quoi. Donc ils ont changé de statut, tu vois. Et c'est intéressant
était
parce
pas
que.
En costard, la personne des Devolver qui était
là. Non, oui, mais tu vois, l'idée, c'est surtout de la part de Mike Rose et Rami Ismail qui sont dans le milieu depuis tellement longtemps qu'ils ont vu tout début des jeux indés. Et ils ont vu, eux, la différence et l'évolution de Devolver depuis.
De toute façon, maintenant, c'est simple. Devolver, tu as un board qui regarde la rentabilité et le cours des actions. C'est donc. Et les décisions stratégiques, même quand il y a un truc. Quand ils disent cette année au Summer Game Fest on va présenter que Ball Pit uniquement et qu'on va faire que ça et qu'on va pas faire notre segment habituel et qu'on présente absolument que ça, c'est qu'ils misent sur le fait que Ball Pit ce soit le nouveau Balatro et qu'il pète et qu'il a un côté ultra addictif et tout ça.
Ça s'est pas trop mal passé.
Oui, mais j'ai limite l'impression que vu ce que Ball Pit a marché, c'est pas assez par rapport à ce qu'ils attendaient.
Après, c'est aussi pour moi l'un des problèmes de l'industrie, c'est qu'on a tendance à suivre la trend au lieu de juste essayer de faire des créations qui sont incroyables, surtout côté éditeur, etc. Quand il y a l'argent qui rentre en jeu, on veut suivre les trends, on ne veut pas forcément prendre le temps d'expérimenter et créer des nouvelles choses tout le temps.
La fameuse prise de risque.
Ce qui est drôle, c'est que
les entrepreneurs qui prennent des risques, évidemment.
Ce qui est drôle, c'est que du coup, à la base, c'était un peu justement des éditeurs comme Devolver, des indépendants qui prenaient beaucoup de risques.
Ouais.
Et maintenant, les indépendants et les éditeurs prennent moins de risques, vont plus vers des formules. Et c'est les AAA qui ont besoin de se renouveler et qui commencent à essayer d'expérimenter avec des trucs bizarres.
J'aime bien ce mot de la fin. J'aime beaucoup ce mot de la fin. Merci beaucoup, merci beaucoup, Jenna. Ah pardon, t'avais une autre.
J'allais dire juste pour conclure. Vas-y. Où est-ce qu'on peut te suivre, Jenna, sur les réseaux, sur Twitch, est-ce que tu streams encore?
Je vais probablement re-streamer sur Twitch dans les prochaines semaines parce que j'ai du dessin à faire et c'est bien de le faire en étant posé avec des gens. Mais je stream plus du tout régulièrement. J'avais streamé régulièrement pendant quelques mois et en fait. On a changé, j'avais plus internet pendant un mois et puis après on a changé le setup dans l'appart, bref. Je peux plus streamer autant qu'avant. Mais je suis quand même sur un peu tous les réseaux, donc je suis sur Blue Sky, Instagram, Discord, j'ai un serveur Discord. On peut wishlister mon jeu sur Steam.
Oui.
Faites-le.
J'ai même une newsletter.
Ok. Ah oui.
J'ai un mastodon.
Ouais.
Voilà, je suis à plein d'endroits. Probablement déjà sur votre plateforme favorite, à moins que ce soit la plateforme de Elon Musk, parce que je l'ai quitté.
Et si c'est votre plateforme favorite, faut arrêter.
Bah, changer.
Arrêtez. Arrête,
genre Blue Sky, ça ressemble à 200%.
Oui.
C'est pareil, sauf que c'est mieux.
Y a
sauf
un
que
peu,
c'est pas
y a moins
encore.
Il y a moins d'Asie et il y a moins d'IA à la con dedans. Ouais. Voilà.
Mais c'est pas encore complètement parti en vrille. Ils n'ont pas encore rajouté les pubs qu'ils ont prévu de mettre.
Après, si vous voulez vraiment aller à un endroit où ce sera à peu près pareil, mais où il n'y aura pas ce genre de soucis, allez sur Mastodon.
Ouais.
Voilà. Ouais. Parce que là, pour le coup, c'est décentralisé vraiment.
C'est vrai. C'est vrai. C'est une bonne conclusion.
Eh ben, merci beaucoup, Jenna, d'être venue dans notre émission.
Ouais, de rien. Merci de m'avoir invité.
Merci Romain pour ta présence.
Oui, bah comme d'habitude.
Hein, pour voilà. Comment dire ton...
pour appuyer sur les boutons. C'est comme ça qu'on.
Ouais, mais pas au bon moment.
Bah toujours. Mais attends, j'ai un truc à faire. Évidemment que je le fais mal.
Merci Julien pour ton micro coupé.
Mais de rien. Du monde tocard.
Je crois qu'on t'entend dans ton micro. Hein. C'est vraiment le parfait moment.
Oui, c'est ça. Mais le moment où j'ai remonté le son, au moment où il m'insultait. Enfin, moi, on est tranquille.
Et merci d'avance, Bettina, pour la couverture de Game Award tout à l'heure.
Et merci vraiment, effectivement, Jenna, pour ta présence. Et c'était très intéressant, en tout cas, sur le parcours, le comment, le pourquoi. C'est très cool.
On se retrouve donc la semaine prochaine, éventuellement.
Normalement, oui.
On ne sait pas de quoi on va parler. On ne sait même pas si on sera sur Twitch. On n'en sait rien.
Voilà.
Mais en tout cas, merci pour le coup. Merci au duo Romain et Julien pour la gestion du setup Twitch. C'était cool. Alors, juste Julien.
C'est pas ça que je voulais dire.
Voilà.
Et merci à Bettina pour nous avoir prêté du matos, ce qui fait qu'on y voit un peu mieux.
Ouais.
Voilà.
C'est parfait. Un travail d'équipe et c'est pour ça qu'il n'y a que mon nom.
Escroc.
Voilà.
Très bien.
Bah, je vous fais des bisous et
bonne soirée à tout le monde.
Et on se voit la semaine prochaine. Salut.
Salut.
Des bisous. Salut.